Bonjour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Quand on parle des choses de Dieu, je trouve que le mot croyance a perdu beaucoup de sa valeur et qu'il n'est plus tellement adapté. On regarde le ciel, on dit, je crois qu'il va faire beau aujourd'hui, mais ça a l'air de dire que, bon, on pense, on espère qu'il va faire beau. En fait, le mot croyance a perdu un peu de sa valeur et je pense qu'il y a une marge d'incertitude dans ce mot. Bon, évidemment, ça dépend de ce qu'on dit. Par exemple, si je dis à quelqu'un « je te crois », eh bien, ça veut dire que voilà, on croit que ce qu'il dit est vrai. Si on dit « je crois en Dieu », ça signifie « je suis certain qu'il existe ». Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. « Je crois en Dieu », »,« je crois Dieu », ça signifie « je crois que ce qu'il dit est vrai ». Et avec le mot « certain », avec le mot « certitude », je trouve que ça précise encore mieux notre foi en Jésus-Christ. Je lisais un livre de Simone Veil qui disait à un moment donné « tout ce qui est au-dessous de la certitude est indigne de Dieu ». Je trouve que c'est très beau. Très beau. Frères et sœurs, le grand exploit de Dieu, quand on y pense, c'est d'être arrivé à se faire aimer, vénérer, adorer, sans jamais se montrer. Ça, c'est quand même un coup formidable. Alors, qu'est-ce que les gens du monde apprendraient si ils pouvaient voir l'invisible? Qu'est-ce qu'ils apprendraient? Ben, ils apprendraient que ce que nous appelons la réalité matérielle, eh bien, elle a pris naissance dans un monde invisible qui est situé au-delà de l'espace et du temps, donc on ne peut pas géographiquement dire où c'est, et ils apprendraient en fait, la science, elle cherche à trouver Dieu dans l'absolu. La science ne dit pas ça, mais en fait, c'est ça qu'ils cherchent, c'est l'absolu. La science essaie de comprendre, elle observe ce qui est visible, et elle affirme de plus en plus des choses qui deviennent de plus en plus vraies. Ils disent que maintenant la matière est née de l'énergie. Hein? Et puis il y a même qui vont plus loin dans la science quantique, ils disent que ça vient de l'énergie et de l'information. On y reviendra, c'est très intéressant. Et cela, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'homme, l'énergie et l'information. Bon, la science ne veut pas dire, les scientifiques ne veulent pas dire Dieu. Ça les écorche. Commence à dire quelque chose, n'est-ce pas, crée et organise, c'est l'énergie intelligente. Alors il parle, c'est terrible, il parle d'une soupe, d'une soupe quantique, n'est-ce pas, une sorte de chaos qui se transforme en étoile, en galaxie, en forêt, en être humain, et puis en pensée, en émotion, en souvenir, en désir. Ça vient d'une espèce de grosse soupe, une minestrone, je sais pas. En fait, ils ne sont pas tellement loin de la vérité. Ils ne sont pas tellement loin de la vérité. Ils cherchent, mais ils ne veulent pas trouver Dieu. N'importe quoi, mais pas Dieu. Ah non, n'importe quoi, mais pas Dieu. Bon, il y en a qui trouvent Dieu. Hein. Bon, on peut les comprendre aussi parce que Dieu, bon, ben voilà, il y a une histoire passée. Et puis, ceux qui l'ont représenté ici-bas, dans les diverses religions qui peuvent exister, ils n'ont pas toujours été très crédibles. Alors, dans la conscience des humains, il s'est inscrit de plus en plus cette idée que, voilà, ben c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu, c'est par le biais de la foi qu'on peut le contacter, et c'est pas faux, mais voilà, ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, ben ma foi, ils disent, ben moi j'ai pas la foi, ça m'a pas été donné, etc., etc. Enfin, ils évitent toujours la réalité. Cependant, alors qu'on arrive presque à la fin de la dispensation de l'histoire de l'Église dans les nations, sur la terre, Dieu permet que la connaissance augmente et les humains sont prêts d'appréhender Dieu. Et en l'appréhendant comme une intelligence divine, une personne. Ça commence à venir de plus en plus. Et cette approche, elle confirme ce que les croyants de la religion chrétienne ont toujours affirmé. Dieu est une personne intelligente qui est bien au-dessus de nous. Et puis nous, nous ajoutons que son nom est Jésus-Christ. Et il n'est pas qu'intelligent, il n'est pas qu'énergie, il est aussi amour. Alors ça les dérange vraiment complètement, cette histoire-là, cette notion. C'est lui qui accomplit des miracles, c'est lui qui génère le moindre de nos élans d'amour, c'est lui qui a enfanté la beauté, c'est Dieu qui est là derrière toutes ces choses. Et mais connaître cette personne, ce Dieu aimant, ce Dieu intelligent, ce Dieu plein d'énergie, ben ça n'engendre que l'adversité. D'ailleurs, le mot Satan, ça veut dire adversaire, n'est-ce pas? Adversaire, donc souffrance. Par contre, s'approcher de Dieu, eh ben, c'est le connaître vraiment, avoir vraiment rencontré Dieu, ça nous guérit. Premièrement, ça nous guérit de la peur de la mort. C'est pourquoi la première chose que Jésus nous dit, c'est « vous aurez la vie éternelle ». Voilà, déjà ça. Et puis, c'est terrible pour l'être humain qui réfléchit de penser qu'un jour il va disparaître totalement. Maintenant, ils sont effrontés, ils disent de plus en plus « ouais, mais après la mort, il n'y a rien du tout ». C'est facile à dire, mais s'ils y réfléchissent, ça fout les boules, comme on dit. C'est grave, dire « après, il n'y a plus rien, après, on n'est rien, tout ce qu'on est là, tout ce qu'on fait, et puis après, il n'y a plus rien ». C'est une peur terrible. S'approcher de notre Créateur, ça donne un sens éternel à notre vie. Voilà pourquoi il est bon de s'approcher de Dieu, de cette personne aimante, de cette personne intelligente, de cette personne qui agit, qui est pleine d'énergie. Ça nous ouvre les yeux, ça nous donne un sens. Oui, Dieu est la, entre guillemets, seule chose qui soit vraiment réelle. Le mot « chose » pas tellement adapté, mais c'est pour montrer qu'en fait, rien n'existe en dehors de lui. Et on voit beaucoup de choses. C'est pourquoi j'emploie ce mot qui n'est pas très délicat. Est-ce qu'on voit ce qu'on voit, ce que nous voyons, l'ensemble de l'univers, aussi vaste est-il, et tout ce qu'il contient, et tout cela, c'est juste en fait une projection de cet être divin que nous adorons, que nous vénérons, à qui nous sommes venus rendre un culte ici ce matin. La Bible nous enseigne qu'il est en tous et il est en tout, mais elle nous enseigne aussi qu'il n'est pas les choses. S'aimer soi-même plus que Dieu, aimer quelqu'un plus que Dieu, aimer quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le péché le plus abominable qui puisse se faire, le plus grave devant la face de l'Éternel. Se rendre coupable d'idolâtrie est la pire des choses, la pire. Être accusé d'être un idolâtre, c'est la pire accusation qu'on puisse porter sur quelqu'un, la pire. Dieu remplit tout en tous et nous l'aimons lui. Amen. Et nous l'aimons bien sûr, nous aimons aussi nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nous aimons la France, le fromage, mais nous l'aimons lui plus que tout. Amen. Plus que tous. Et il est la source d'où je viens, il est la source d'où vous venez, il est la source de tout. Il est le seul objet de notre adoration. Alors, c'est vrai, comme je vous disais, j'aime, c'est terrible à dire, mais j'aime plus ma fille que ma femme. Ben oui, parce que voilà, c'est quelque chose qui est de ma chair, mais j'aime ma femme, mais il y a des petits degrés comme ça. Et il ne faut pas, comment dire, se rendre malade parce qu'on s'aperçoit qu'on aime quelqu'un plus qu'un autre. C'est tout à fait dans la nature. Mais c'est Dieu en premier. C'est Dieu en premier. C'est par lui que nous subsistons, c'est par lui que subsiste toute chose, que c'est par lui que tout être subsiste. Et il ne se montre pas, mais on peut le voir dans toutes nos voies. On peut le voir dans les autres, on peut le voir dans la nature, et on peut aimer la nature parce qu'il est dans la nature. On peut aimer les gens parce qu'il est dans les gens. Alors on les aime plus ou moins, plus ils sont remplis de Dieu, plus ils sont aimables, ça c'est certain. Mais voilà, un aveugle qui retrouve la vue, eh ben c'est après l'imposition des mains, c'est lui qui fait ça. C'est personne d'autre. Personne d'autre. Je me rappelle qu'il y avait un pasteur, c'était le pasteur Moïse Arou, qui disait qu'on idolâtrait Osborne et qu'on roulait son os de borne en borne pour aller voir Osborne parce qu'il faisait des miracles. Oui, peut-être il y en a qui l'idolâtrent. mais pas moi. Amen. Et pourtant, c'est un homme que j'aime vraiment. Une femme qui est tenue 25 ans, pliée à genoux, à marcher comme ça, la tête dans la poussière, et qui retrouve la possibilité de marcher droit et de travailler après la prière de la foi, c'est lui qui fait ça, personne d'autre. Un paralytique qui marche, c'est lui qui fait ça. Il agit dans des choses qui ne sont pas tout à fait normales. On appelle ça des miracles. Ce sont des actes de notre grand Dieu en réponse à la foi. En la foi. La foi, c'est plus qu'un vague sentiment. Parce que quand on s'approche de Dieu, la foi, elle devient une certitude. Une certitude. Une ferme assurance. Pourquoi ? Parce que celui qui s'approche de Dieu s'approche de l'amour, de l'intelligence et du pouvoir créateur. Alors il est submergé, il est immergé, il est baptisé en Dieu dans une certitude absolue. La foi devient plus qu'un savoir théologique. On peut connaître sur le bout des doigts la théologie de la guérison divine et ne jamais avoir de guérison divine dans notre vie. Parce qu'on connaît simplement dans la tête ce qu'il faut, c'est rencontrer Dieu. Elle devient une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi devient une démonstration. On démontre la puissance de l'amour, de l'intelligence et du pouvoir créateur de celui que nous aimons, que nous adorons, que nous vénérons, dont, devant lequel nous nous prosternons, notre Dieu invisible. Alléluia ! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Mes frères et sœurs, si on filmait 1000 bébés, 10 000 bébés, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ça se fait de plus en plus. Maintenant, on voit sur Facebook des gens qui se sont photographiés pendant 8 ans. Ils ont fait une photo d'eux pendant 8 ans. Vous avez déjà vu ça? Ils se font clic, clic, chaque jour. Puis après, ils rajoutent toutes ces photos. Alors, on les voit vieillir. Hein, vous avez vu ça? Peut-être. Moi, j'ai vu, il y en a 2 ou 3 qui ont fait ça. C'est rigolo à voir. Si on photographiait 1000 bébés depuis leur naissance jusqu'à leur mort, on ne pourrait pas savoir si ceux qui ont cru en Dieu parmi ces bébés-là ont été plus heureux, plus sages, ou s'ils ont mieux réussi que ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Pourquoi ? Ben parce que la caméra ne peut pas enregistrer autre chose que ce qui se passe en surface. Et ce qui se passe en surface, eh bien, c'est pas la réalité. Le réel est invisible, c'est ça qui a de la valeur, c'est ce qui n'est pas visible. De même, le regard que le monde porte sur toi, sur une personne qui connaît Dieu, eh bien, une personne qui te regarde ne peut pas sonder ton intérieur. Il ne peut pas savoir. Il ne voit que ce qu'il voit. Et il interprète en plus ce qu'il voit. Il y a dans celui qui a la certitude de la foi une grande partie d'invisible. Et c'est justement cette partie invisible qui permet aux incrédules de douter. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi il dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme l'esprit. C'est-à-dire, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas, on voit juste un peu. Mais bon, c'est invisible. Et alors, tout est à portée du jugement des autres. Ça permet aux incrédules de douter. La plus grande partie qui existe, c'est invisible. Chercher Dieu dans la création, on peut voir un petit bout. Chercher Dieu dans un homme de Dieu, on peut en voir un petit bout. Regardez, je reparle d'Osborne. Osborne, un homme de Dieu, qui a eu des miracles extraordinaires dans sa vie, qui a eu un enseignement fantastique dans sa vie, qui a libéré des milliers de personnes de toutes sortes d'idées fausses au sujet de la guérison, au sujet des démons, au sujet de l'argent, au sujet de toutes sortes de choses. Il avait un message positif, un message extraordinaire. Dieu l'accompagnait en faisant des signes, des prodiges, des miracles, même des résurrections. Et les gens, qu'est-ce qu'ils voyaient ?
Sa moustache et sa perruque.
Et puis aussi quelques-uns de ses défauts, hein, parce qu'il en avait aussi. Vous ne trouverez que ce que vous voudrez voir, ce que vous voulez voir. Et on juge toujours les autres d'après soi-même. Les scientifiques ne veulent pas voir Dieu, la personne de Dieu. Et quand ils voient un miracle, eh bien, ils cherchent à l'expliquer avec leur savoir. Ça va pas très loin. Hein. Mais Dieu permet qu'ils avancent. C'est Dieu qui leur met encore un petit peu de foin pour que ça brûle encore et puis qu'ils avancent un peu. Mais nous, frères et sœurs, nous savons qu'au commencement, ce n'était pas tout à fait comme maintenant. Ce n'était pas tout à fait comme maintenant. Les Hébreux, eux, ils voyaient quelque chose. Une sorte de présence. Ils l'appelaient la Shekinah. La Shekinah. On traduit souvent ce mot par lumière ou par rayonnement, la Shekhinah. Dieu, en ce temps-là, se montrait un peu de sa personne. Alors, il voyait la colonne de fumée, il voyait la colonne de feu. Il le faisait pour son peuple, pour que son peuple fasse une expérience. Il était visiblement en contact avec le monde sensible. Il se montrait accessible, il ne l'était pas, mais il se montrait un peu accessible. Et ces gens-là étaient des gens qui avaient besoin de ça. C'était il y a 3500 ans, c'était il y a longtemps, même plus. Et ils avaient vécu des horreurs en Égypte, ils étaient des gens blessés dans leur gêne, 400 ans d'esclavage. Et ils étaient blessés et Dieu aurait été, excusez-moi l'expression, pervers et cruel s'il avait exigé leur amour tout en restant insaisissable. Aujourd'hui, il nous faut un modèle qui puisse montrer Dieu, sans que Dieu soit limité par ce modèle. Et ce qui est évident, c'est que Dieu s'est éloigné de nous depuis ce temps-là. Au début, rappelez-vous, il déambulait dans le jardin d'Éden, le soir, il venait puis discutait avec Adam et Ève à cette époque. Alors, où rencontrer Dieu aujourd'hui ? Dans une certaine zone, dans un terrain commun où on peut se trouver, là où se produisent les miracles, là où se produisent les apparitions, les illuminations, les anges et sa voix pour ceux qui l'entendent. Ce sont des phénomènes qui jettent un pont entre les deux mondes. Ils sont réels, mais ils ne font pas partie d'un enchaînement de causes à effet qui est prévisible. On ne peut pas prévoir la chose. On ne peut pas dire, venez cet après-midi à 5h10, il va y avoir un miracle. On ne peut pas. Une apparition d'ange, c'est toujours surprenant. Comment dire ça plus simplement ? Ceux qui veulent s'obstiner à ne voir que les réalités matérielles, ils peuvent encore demeurer sceptiques. L'esprit des douteurs demeure rebelle et défend leur certitude que leur offre le monde matériel, les analyses par rapport à ce qu'ils savent. Et de leur point de vue, ils ont raison. Pas acheter la pierre, ils ont raison. Et c'est de ce même point de vue est raisonnable aussi quand il s'agit d'avoir foi en soi ou dans les autres. On peut toujours avoir une part de doute, même devant le plus grand des miracles. Maintenant, on va vous dire c'est psychosomatique. On va vous dire même c'est le diable qui l'a fait. Alors, Dieu a donné un livre. La compilation de ce qu'il a dit à ses serviteurs, les prophètes d'autrefois, les apôtres, et aussi de ce qu'il a dit lui-même quand il s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ce livre, c'est la Bible. Et dans ce livre, on découvre que Dieu est amour, il le dit souvent. Et on découvre que s'il a créé le monde, c'est par amour. Que pourquoi est-ce qu'il est venu nous chercher ? C'est par amour. Qui s'est révélé à nous, qui sommes les siens, c'est uniquement par amour. Aucun autre intérêt, tout lui appartient, tout est à lui. C'est une histoire d'amour. Pourquoi est-ce qu'il nous a montré son amour ? Par amour. Alors là, vous allez dire, mais Michel, tu divagues. Oui, quand on parle d'amour, c'est toujours un peu une divagation. Dieu ne semble pas présent sur cette terre quand on regarde toutes les horreurs qui s'y produisent, et pourtant la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Les humains se sont habitués à l'absence du sacré. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Pourtant, quand on entre dans cette zone, comme j'appelle ça, cette zone de transition, la région où on peut rencontrer Dieu, eh bien, qu'est-ce qui nous séduit ? C'est l'amour. Moi, je ne me suis pas converti parce que j'ai vu des miracles. Je me suis converti parce que Raphaël a parlé de l'amour de Dieu. Bon, de la colère de Dieu aussi qui était contre moi parce que j'avais péché, mais de son amour qui avait tout fait pour que je puisse être sauvé. C'est son amour qui m'a séduit. C'est son amour qui m'a touché. Je me suis approché de Dieu à cause de son amour. Parce que Dieu, j'ai vu que Dieu, j'ai compris quand il a prêché, que Dieu me regardait sans jugement, sans opinion, que c'était fini, il me voyait au travers du sang purificateur de Jésus-Christ, qu'il me regardait avec amour. Et c'est sa présence d'amour qui a confondu mon cœur et le vôtre, et il n'y a pas d'explication théologique à ça. Bien sûr, on peut faire une doctrine là-dessus pour expliquer, pour mettre les choses bien au clair, mais en fait, ça n'est ni théologique ni scientifique, c'est de l'amour. Quand on s'approche de Dieu, on transcende les contraintes matérielles, on va plus loin que ça, on fait confiance naturellement, parce qu'on se sent aimé. C'est pourquoi on n'a pas peur de tout vendre, de tout quitter pour suivre le Seigneur. Parce qu'on se sait aimé, il ne va pas nous lâcher. C'est juste de cela dont nous avons besoin, de l'amour de Jésus, d'être sûr que Jésus nous aime, nous, et que nous sommes aussi aimés par ceux de sa famille, de sa race. Parce qu'il n'y a pas que Dieu, il y a aussi sa famille ici-bas sur terre. L'Église. Et celui ou celle qui entre là, et qui en sort, pour y revenir, pour vivre dans son obligation matérielle, parce qu'on a des obligations matérielles, eh bien, celui-là, il porte une empreinte. Il porte une empreinte parce qu'il se nourrit à la source, vers le Créateur. Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre et il sortira et il trouvera des pâturages, on vient de le lire. Il y a une porte entre le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, c'est le monde matériel. Le monde invisible, c'est le monde de l'esprit. Et cette porte, c'est Jésus. Et on entre et on sort, et on entre et on sort, et on entre et on sort. Quelqu'un qui vit tout le temps dedans, il est déséquilibré. Quelqu'un qui vit toujours dehors, il est déséquilibré. Il faut entrer et sortir, entrer et sortir. Nous devons entrer et sortir, passer du monde matériel au monde spirituel et revenir dans le monde matériel, sachant que nous retournerons dans le monde de l'esprit. Si on va de l'un à l'autre par Jésus, c'est-à-dire quoi ? Ce que ça veut dire par Jésus ? En employant les bonnes clés, c'est-à-dire en faisant ce qu'il dit, en faisant ce qu'il révèle, en obéissant à sa parole. C'est-à-dire si on va de l'un à l'autre par Jésus, alors on va trouver ici et de l'autre côté des pâturages, la nourriture, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une bonne vie. De quoi vivre dans ce monde matériel et de quoi vivre aussi dans le monde spirituel. Ce que Dieu veut, c'est nous donner, quand nous le rencontrons, ce qui nous permet de survivre dans tous les dangers qui sont là sur cette terre, parce que Dieu protège ceux qui craignent son nom. La sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, on se tourne vers lui parce qu'on veut vivre et on veut vivre éternellement. On ne veut pas vivoter, on ne veut pas exister, on veut vivre. Et on sait qu'en lui, il y a une protection. Et puis, celui qui entre dans sa présence, et puis encore, et après qui ressort pour faire son travail, pour faire son boulot, pour faire les activités qu'il a à faire, eh bien, il passe de ce monde à l'autre pour revenir de nouveau. Et cette personne-là, elle trouve son identité, c'est-à-dire paix. La paix. La paix. Dieu lui donne la paix. Tu es mon enfant. Voilà. Tu es mon enfant. Ça suffit pour avoir la paix. Je suis un enfant de Dieu. Ça suffit pour avoir la paix. C'est Dieu qui le dit. Tant pis si les autres ne croient pas ça. Dieu te le dit, Dieu me le dit. Nous avons en nous le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est la chose qui est la plus grande, c'est la plus grande valeur après la Bible. Le témoignage du Saint-Esprit en nous. Pourquoi je dis après la Bible ? Parce que sans la Bible, nous ne saurions même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. Nous nous tournons vers lui parce que nous voulons réussir et ainsi le glorifier, c'est-à-dire honorer la famille dont il est le Père. Et nous sommes bien quand nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est bien, ben on fait des choses bien. Et puis, entrer et sortir, eh bien, quand nous entrons et nous sortons, nous trouvons la paix, c'est-à-dire le repos, l'activité, le calme intérieur au milieu du chaos extérieur, et nous tournons vers lui parce que nous ne voulons pas être engloutis par l'agitation perpétuelle qui se trouve dans ce monde. Alors on rentre, et après on ressort, et puis on rentre de nouveau. Entre et sort. Et quand on entre Et quand on sort, partout on trouve des pâturages, on trouve de l'information, tant dans ce monde que dans l'autre monde, dans le monde de l'esprit. De ce monde, nous cherchons objectivement, c'est-à-dire, il faut être bien réel, les pieds sur la terre. Et puis dans l'autre, eh bien c'est beaucoup par le moyen de l'intuition. L'intuition, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Ça vient aussi de Dieu. Si elle est soumise à l'Esprit de Dieu, elle est très utile. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas besoin d'un expert humain pour être certain d'être amoureux de ma femme. Je sais que je l'aime. Je n'ai pas besoin d'un expert humain pour venir me dire que je suis heureux. Je n'ai pas besoin d'un expert humain ou d'un bouquin qui m'explique par A plus B comment et pourquoi. Non, je suis en présence de Dieu, je sais que je suis son enfant, je sais qu'il me protège, je sais qu'il me conduit. Et je fais confiance aux facultés qu'il a placées en moi. Et aussi dans les facultés qu'il a placées dans les autres. Et puis en plus, je sais qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est indulgent. Alors comme ça, je n'ai pas la trouille de faire un faux pas. Parce que je peux faire des faux pas. Il m'en donne le droit. Alors je rentre, je sors, parce que j'ai besoin de confiance que le monde dans lequel je suis et le monde qui est en moi est celui de Dieu. Il est bon. Et puis j'entre et puis je sors parce que ça met en marche en moi le pouvoir créateur. Cette créativité, elle semble surgir de nulle part. Eh bien, ça ne surgit pas de nulle part, c'est simplement ce qu'on appelle l'inspiration. Quand on a une inspiration parce qu'on est entré ou parce qu'on est sorti, parce qu'on est dans le monde matériel ou parce qu'on est dans le monde spirituel, et que là on reçoit une inspiration, alors on vit comme notre créateur qui a tout créé à partir de rien. Nous, c'est même pas à partir de rien, c'est ses pensées qui nous inspirent. Et puis, si nous entrons ou si nous sortons, c'est parce que nous aimons être émerveillés, émerveillés par la beauté du Créateur et de la création. On ne peut pas aimer le Créateur si on n'aime pas la création de Dieu. Et puis on va entrer, puis on va sortir, parce que notre cerveau, il peut voir la lumière. Notre cerveau, il peut voir la lumière. Les yeux, non, pas trop, mais le cerveau, oui. C'est-à-dire cette conscience pure de joie et de béatitude. Je vous parlais de béatitude, il y a quelques mois en arrière, je vous parlais d'adoration, je vous parlais de contemplation. Et cette source de béatitude, de plaisir dans sa présence, que ce soit ici ou de l'autre côté, eh bien cette source, eh bien c'est sa présence même, simplement le fait qu'il est. Et je peux ramener cela de ce côté-ci du voile, c'est-à-dire dans le visible, je peux le ramener en vision, je peux le ramener en parole, je peux le ramener en réalité miraculeuse, je peux le ramener de toutes sortes de manières qui sont hors simplement de mes capacités, de mes possibilités personnelles. J'ai besoin, nous avons tous besoin d'entrer et de sortir pour pouvoir expliquer un peu la magie qui côtoie notre réalité habituelle et notre train-train. Sinon, on est comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde, si on est de ceux qui entrent et qui sortent, et qui sont remplis de bonnes choses, qui trouvent des pâturages partout, dehors et dedans. Et puis, entrer et sortir, parce que tout notre être est issu d'une seule cellule qui a été fécondée, qui a été animée par la flamme de la vie, c'est ce que nous sommes. Des milliards et des milliards de neurones se sont formés à partir de quoi? De cette minuscule étincelle de vie. Et puis, je ressens cette vie, je suis conscient de cette vie. Et puis, je suis aussi conscient de son origine. Mais ça, c'est une chose très précieuse. Je ne crois pas que les plus beaux arbres de notre parc ont conscience de ça. Ni même Potter. Quand j'entre et que je sors, et que j'entre à nouveau et que je ressors, mes frères et sœurs, je touche à cette étincelle qui était ce que j'ai commencé à être à un moment donné. Et puis je ressens tout cela. Je le ressens, je me sens vivre. Mes frères et sœurs, Dieu correspond à cela. C'est un être pur, il est. Et nous avons besoin d'entrer et de sortir parce que sans cela, notre vie est un échec. On peut réussir, gagner le monde entier, mais à quoi cela sert-il? si on perd notre âme. Dans le visible, ce que nous avons de plus précieux, avant même notre propre vie, dans le monde visible, je dis, eh bien, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce qu'elle est la carte routière qui conduit jusqu'à la porte, jusqu'à Jésus. Une fois qu'on a trouvé la porte, il faut la franchir. Une fois qu'on l'a franchie, il y a un chemin. Le chemin est long. Il peut être un petit peu difficile. En tout cas, il est étroit. Mais il faut continuer. Il faut continuer à marcher. Il ne faut pas se laisser avoir. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Rappelez-vous toujours, il est esprit, il est tout-puissant. Il est notre Dieu, le seul que nous vénérons et que nous adorons. Lui seul est digne de notre louange et de notre amour total. Que Dieu soit béni, Seigneur Jésus. Merci pour ces quelques mots que tu m'as inspirés. Merci, mon Dieu, pour ta visitation. Que ton nom soit glorifié. Je te prie que nous puissions te glorifier afin de montrer que ta famille, ici-bas sur terre, n'est pas comme la famille de l'ivraie. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.